Oui.
J'avais une question très précise pour M. Brochu. J'ai vu dans le rapport, la version courte, qu'il était possible aussi, pour l'évaluation de la lecture, d'utiliser un nouvel instrument qui avait été prévu au niveau international pour l'évaluation de la lecture des textes numériques, et que c'est un choix qui n'avait pas été fait par le Canada. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce choix n'a pas été fait et est-ce qu'il va en être autrement en 2012?
La première partie de la question, oui, c'est pas énormément de pays qui ont adhéré. C'est une option. Donc, le PISA offre des options internationales et des options nationales. Dans le cas du Canada, nous participons à certaines options et pas à d'autres. Et c'est un consensus des provinces. Dans le cas ici, c'était des considérations techniques plus qu'autre chose. On avait fait la mise à l'essai de cette composante électronique en 2008, avant l'administration de 2009, et on avait eu un paquet de problèmes techniques à la mettre en place dans les écoles. Les ordinateurs ne fonctionnaient pas bien, l'application ne fonctionnait pas bien, les écoles n'étaient pas prêtes à avoir ce genre d'évaluation-là. Et nous, je pense qu'on n'avait pas bien ciblé les besoins des écoles pour pouvoir l'administrer. Donc, on s'est dit, trop de problèmes à la mise à l'essai, on le fait pour l'administration principale. Il semblerait que les pays qui ont décidé de le faire quand même, ça s'est bien passé. J'ai l'impression que tôt ou tard, il va falloir embarquer dans le train. De plus en plus, le PISA se dirige vers une administration informatisée. En 2012, je dirais que c'est une transition. Certaines composantes vont être informatisées. Les mathématiques, par exemple, il va y avoir deux composantes qui sont obligatoires. Une composante des mathématiques papillaires, une composante résolution de problèmes qui sera informatisée, les pays vont y participer. En 2015, l'espérance de l'OCDE, c'est que le tout sera informatisé.
Outre la formalisation de l'outil, il me semble que dans la montée d'évaluation de la littératie, il y a évidemment des enjeux nouveaux avec
oui, on voit avec cette composante.
La littératie numérique.
On étend de beaucoup ce qu'on peut mesurer. Ouais. Même chose en sciences, la même chose en mathématiques. Ouais.
J'ai François et Maurice. C'est Guy, hein?
Oui. C'est pas une question, c'est juste un remarque sur un des propos de l'union de si tu as Pisa, en fait, dans une perspective de l'émergence d'un discours sur les données probantes, donc fondé sur la voie, on arrive à un au niveau de. Possible de modélisation parce que ces objets ne les documentent pas. Par contre, que par exemple, les critiques qu'on peut faire à l'entrée très critique de notre ami Pierremont et de Bissonnette au regard des usages et des usages de la recherche par rapport à la réforme et la performance scolaire des élèves québécois. C'est une réalité d'un autre niveau. PISA ne fournit pas au sens strict du terme des données probantes dans la définition de son usage. Okay? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est par rapport à la dimension de la question de mon prédécesseur et la réponse de notre invité. Un des problèmes, c'est qu'effectivement, en Angleterre, faire du recueil de données informatisées, c'est pas un problème. Ils ont investi 14 milliards, puis l'entretien du système. Au Canada, le problème, c'est qu'il y a une inégalité à la fois régionale et interprovinciale. Les systèmes sont obsolètes à tout le Québec. L'éducation scolaire, oui, il y a plus de 10% des ordinateurs qui sont fonctionnels dans les écoles. Et ça, c'est pas un problème que le temps simple règle. C'est un problème de choix. L'État, dans les provinces canadiennes, ne fait pas les mêmes choix. Les maritimes ont choisi l'option soutien système informatique pour l'accessibilité. Au Québec, on a choisi l'option faites ce que vous voulez avec 39$ par année.
Maurice?
Moi, j'avais une question sur. On parle de 15 ans. On fait un portrait des performances, dans le fond, de la population scolaire de 15 ans. Mais 15 ans, c'est un âge, ça semble une donnée naturelle, là, mais 15 ans, c'est aussi une donnée de système scolaire. Et une chose qui me semble assez manifeste, c'est qu'il n'y a pas un recouvrement entre le groupe des 15 ans en termes d'âge naturel et le groupe des 15 ans qui vont à l'école. Je vous donne trois exemples que je connais là. En Suisse, qui est un pays relativement performant, autour du Canada, quasiment, 60% des élèves quittent l'école à 15 ans. Ils s'en vont vers les formations duales en entreprise, alors que seulement 40% restent dans un système d'éducation formelle conduisant vers les maturités gymnasiales ou les hautes écoles. Donc, il y a 60% qui sont skippés, là. En Chine, un enfant sur deux est scolarisé au secondaire. Donc, il y a 50% des enfants chinois qui n'existent pas. Au Québec, je ne connais pas les taux, là, mais à 15 ans, il y a un taux effarant d'abandon scolaire qui font en sorte que ces élèves-là ne sont plus dans le système. Donc, voici trois exemples qui montrent que la notion de 15 ans doit se référer à des constructions sociales qui disent dans l'école, à 15 ans, il y a des milliers et des dizaines de milliers d'enfants qui ne sont plus là. Qu'est-ce que vous mesurez exactement? Les enfants qui sont dans le système? Ou ceux qui sont éjectés, ou qui l'ont abandonné, ou qui n'ont pas de place pour eux, par exemple, comme en Chine?
Je dirais que vous avez tout à fait raison par rapport à la prudence qu'il faut avoir lorsqu'on entreprend des conclusions basées sur l'échantillon qui peut être différent dans une instance par rapport à une autre. Lorsqu'on parle de 15 ans, il y a une petite nuance. C'est même pas 15 ans, c'est 15 ans et 3 mois et 16 ans et 2 mois. Alors, c'est un peu plus que ça, même
encore plus fort.
C'est ça. Alors, il faut faire attention à ça, tout à fait. Donc, ça explique probablement en partie la raison pour laquelle l'OCDE est assez prudent dans ses conclusions spécifiques au pays et se dit que les mieux placés pour tirer des conclusions pour un pays donné, c'est ce pays-là lui-même. Alors, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus dans ce genre de discours, mais vous avez tout à fait raison.
Moi, je ferais l'hypothèse que 15 ans est déjà trop tard pour mesurer la performance des systèmes du plan de scolarisation. Là. Parce que beaucoup de mal a déjà été fait.
Auparavant, juste pour compléter, auparavant, au Canada, il y avait, si vous aviez déjà entendu parler du PIRS, Programme d'indicateur de rendement scolaire, qui est également un enfant du CMEC, où aller jusqu'à l'avènement du PISA, on évaluait deux groupes d'âge, les 13 ans et les 16 ans. Suite à l'avènement du PISA, on a décidé de se concentrer sur un groupe de 8e année, mais c'était encore plus difficile d'interpréter les résultats différents du Québec par rapport aux autres provinces dans le cadre du PIRS, parce qu'on visait un groupe d'élèves de 16 ans, effectivement.
Notre collègue didacticien des sciences a dit dans un des... s'est rapporté dans un des textes de journal que j'ai analysé, qu'il disait que le Québec était bon pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que c'est lié au décrochage. J'ai Guy et Martial et Christian. Oui? Oui, c'est vous? C'est bien vous?
Oui. ma question porte sur les données contextuelles que PISA collecte et les standards que PISA établit entre différents pays, certains culturellement éloignés. Je me demande comment est-ce que PISA arrive à aligner les données contextuelles et les standards qu'il présente comme étant des situations de vie. C'est ça ma question.
Par rapport à la thématique qui peut être évaluée derrière un test, par exemple, ou une question de test. Il n'y a pas de réponse magique à cet aspect-là. Je pense que c'est une question à débattre, certainement. Du point de vue du responsable national, lorsque je mets mon chapeau de responsable national du projet, la réponse officielle, c'est de dire c'est que le PISA prend toutes les mesures qu'il peut prendre pour s'assurer de minimiser les biais culturels dans une évaluation à grande échelle. Par contre, lorsqu'on parle de 450 000 élèves évalués dans plus de 70 pays maintenant, si on essaie d'éliminer tous les biais culturels, on en vient avec une évaluation qui est complètement aseptisée. Ça nous prend un contexte. Le contexte peut être parlant pour certains élèves et moins parlant pour d'autres. Alors, je dirais, c'est d'essayer d'y aller avec comme n'importe quelle évaluation à grande échelle, minimiser ou prendre toutes les mesures possibles pour minimiser l'impact des différentes formes de biais et d'en arriver au pire ou meilleur des compromis. Je pense que c'est aussi valable au Canada que pour n'importe quel autre pays, probablement encore pire par rapport aux biais potentiels pour beaucoup d'autres pays. L'évaluation PISA est quand même assez équitable pour les élèves canadiens d'une façon générale, parce que les situations d'évaluation qui y sont représentées sont assez proches des situations d'évaluation des élèves canadiens qu'ils ont dans leur salle de classe d'une façon quotidienne. Pour d'autres pays, c'est beaucoup plus un défi. Dans une des acetates que vous avez présentées, par exemple, on argumentait que les Français répondent pas à ce genre de questions-là.
Oui, oui.
Lorsqu'ils ont une hésitation, ils savent pas la réponse, ils répondent pas.
Oui.
Alors, c'est possiblement introduire un biais culturel si on les compte sur le fait qu'ils répondent ou ils répondent pas. Alors, cet argumentaire-là, je pense, doit continuer à être débattu, mais le PISA, dans la mesure du possible, prend le maximum de mesures pour essayer de les éliminer. Est-ce qu'il les élimine? Certainement pas. Et minimise.
La relance, c'est possible?
Pardon?
Une autre question de précision.
Allez-y.
Alors, mais pourquoi est-ce que PISA procède à la collecte des données contextuelles?
L'argumentaire, c'est d'essayer d'expliquer les résultats, d'aller au-delà de cette course de chevaux où on a les résultats et qu'est-ce qu'on fait avec. La question étant, ben, là où on est, si on n'est pas satisfait des résultats, qu'est-ce qu'on doit faire? Par où est-ce qu'on doit commencer si on veut s'améliorer? Ben, les données contextuelles devraient nous fournir des éléments de réponse. OK?
OK.
Martial?
Oui. Je voudrais peut-être ton avis ou ta position face au débat sur la réforme successive. C'est qu'il y a eu des débats très contradictoires sur la réforme. Et même si on ne peut pas faire des liens très directs entre les résultats des élèves québécois et la réforme au primaire ou au secondaire, mais après j'ai été surpris. Est-ce que la réaction...
Mais qu'est-ce qui t'a surpris?
Mais qu'il n'y a pas eu autant de réactions. C'est-à-dire, est-ce que la réaction aurait été différente si les résultats avaient été moins bons?
Ah ben oui,
okay. Pourquoi est-ce que ceux qui sont en faveur de la réforme n'ont pas utilisé un peu plus le temps de la réception et les usages, les résultats de PISA? Qu'est-ce qui explique qu'il y ait une certaine timidité face à... au résultat.
Amine me glisse, me souffle à l'oreille. Les pros sont épuisés. Ils sont retournés dans leur terre. Franchement, je ne sais pas.
Il y a peut-être une raison.
Je ne le sais pas. Mais c'est certain, la première affirmation que tu fais, si PISA avait été si les résultats de 2009 avaient été statistiquement différents de ceux de 2006, d'une part, et statistiquement différents de ceux du reste du Canada, on en aurait entendu parler, et c'est certain que le procès de la réforme aurait été fait encore plus violemment. Moi, je me plais à dire que si PISA a eu un effet, c'est pour faire taire les autres, ou en tout cas les amener à faire attention à ce qu'ils disent. Même si je crois que ça ne les convainc pas et que ils vont rester sceptiques au mieux par rapport à ça. Peut-être que les pro-réformes se taisent parce que le leadership, au bout de 10 ans, le leadership pro-réforme, on ne sait plus ce que c'est. C'est plus c'est qui. On a eu je ne sais pas combien de ministres. Il n'y a aucune déclaration ministérielle dans mes affaires. Hein?
C'est ça qui m'étonne.
J'avoue qu'aucun ministre au Canada, enfin d'après les médias, n'ont pris la peine de dire publiquement ou de s'arranger pour rencontrer un journaliste pour lui dire « Hey, on est bon ». Aucun ne l'a fait. Ça, c'est étonnant.
Une autre bonne raison, c'est que quand la réforme arrivait à 2015,
le droit de parole, François.
quelque chose sur les corps qui
n'ont
pas été conservés.
Oui, mais il y aurait eu une... C'est pas grave, ça. C'est pas un argument, ça, parce qu'il y aurait eu une... Les résultats auraient été plus faibles qu'ils seraient intervenus pareil, les anti-réformes. Même si on aurait pu leur dire, écoutez, c'est pas encore tout à fait le bon moment pour le faire. Peut-être que... Je sais pas. C'est comme si c'était pas un enjeu si important que ça, à ma grande surprise. Au Québec? En tout cas, peut-être parce que c'est arrivé au mois de décembre. Je suis pas sûr. Je sais pas. Martial, je peux pas te donner une meilleure réponse que ça. J'ai Christian, j'ai toute autre personne?
Thierry.
OK. Christian, Thierry.
Oui, moi, je voulais revenir sur les conclusions et les enjeux que Claude avait adressés. Et je suis assez d'accord avec tout ce qu'il a dit. Il y a un point sur lequel je voulais faire un commentaire un peu dans un sens différent, qui est différent de ce que M. Brochu a dit. Tu as dit que l'OCDE est extrêmement, au fond, modeste, prudent. Ils font des analyses qui sont, au fond... des analyses quasi scientifiques, même si on peut critiquer l'un ou l'autre point. En plus, c'est une organisation apprenante, elle cherche à améliorer. Et tu as dit, au fond, elle est modeste sur le plan politique. Elle laisse aux États le soin de tirer les conclusions en termes d'amélioration de leur système. Et ils font ce qu'ils veulent, d'une certaine manière.
Quitte à venir, par après, leur dire, vous avez raison de faire ça. Vous avez raison de corriger comme ça.
Mais
moi, dans les documents...
Oui,
excuse-moi, vas-y.
Que l'OCDE, d'ailleurs, comme organisation internationale, se présente comme une organisation experte. Ce n'est pas la Banque mondiale qui prête de l'argent, qui met des conditionnalités et qui intervient de manière très visible sur les politiques éducatives, par exemple, celles que Martial nous a présentées ce matin. Donc, effectivement, on pourrait se... Effectivement, accepter cette vision que l'OCDE donne d'elle-même. Mais dans la recherche auquel j'ai participé, je pense que s'il y a un des résultats de cette recherche qui est fort, c'est qu'il faut se rendre compte qu'en étant un producteur de connaissances, en produisant des instruments de connaissances comme PISA, indiscutablement ce sont des instruments de connaissances, en même temps, on fait de la politique. Parce que l'instrument de connaissances est en même temps un instrument d'action publique. Et donc, je pense qu'il faut aller au-delà de cette présentation en termes de prudence de l'OCDE.
Okay.
On agit politiquement à travers les connaissances. Et pour les raisons, d'ailleurs, toutes les autres conclusions que tu as évoquées, c'est-à-dire qu'on crée un instrument de mise en comparaison de tous les résultats de politique. Et ce simple fait conduit à ce qu'un pays se situe par rapport à l'autre. Et un pays se situe par rapport à l'autre, notamment parce que les acteurs internes se saisissent du résultat, et ce n'est pas le cas de tous les pays, comme tu as bien indiqué. Ça amène à ce que... ça pose quand même des questions en termes de débat démocratique sur les politiques scolaires. Parce que ça signifie... que les politiques scolaires ne sont pas uniquement orientées par, des débats internes, mais de plus en plus sont malgré tout influencées par cette mise en comparaison, même si il va y avoir des réceptions extrêmement différentes d'un point de vue d'un pays à l'autre. Et ce que ça introduit, c'est les débats internes aux différents pays se saisissent essentiellement de la question du classement.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que tout le reste, c'est pour les chercheurs, c'est le classement qui agit. Et donc je pense que la présentation de soi que donne l'OCDE, c'est de l'understatement complet.
Oui.
Et ça pose vraiment des questions en termes de... les politiques éducatives étaient censées être des politiques qui concernent la souveraineté nationale. qui débat sur le rôle de l'OCDE, ou qui débat sur les visées de l'OCDE, ou l'agenda de l'OCDE, il n'y a pas de lieu pour ça. Donc, la question du rapport entre connaissance et politique se pose aussi dans cet arbre-là. Okay. Ce qui est aussi la question de la politisation de la connaissance. Ce n'est pas uniquement la question de quels sont les chercheurs qui... ou quels sont les journalistes qui interprètent les résultats de PISA dans quel sens, étant donné leur position, c'est que ces connaissances-là, elles ont beau être scientifiquement impeccables, elles sont aussi autant des instruments politiques.
Non, je suis d'accord. Je vous laisse... Enfin, je suis d'accord. Je ne retire pas ce que j'ai dit sur la retenue, parce que c'est vrai qu'ils font attention. L'OCDE ne se comporte pas, par exemple, comme la Banque mondiale au Burkina Faso.
Ça, c'est vrai.
Alors que la Banque mondiale, le Burkina Faso, va aller leur dire quoi faire dans le détail.
Ouais.
Bon. L'OCDE ne fonctionne pas comme ça avec les pays membres ou les pays qui participent à PISA. Mais c'est vrai qu'elle structure tellement la discussion que c'est implicite, là. Je veux dire, les conséquences sont là. Oh oui, j'ai Thierry. Et puis j'ai Martial. Amine.
C'est juste un commentaire, retour sur la réforme. Martial, clairement, n'est pas là pour répondre à cette question pour nous, mais la réforme a quand même été largement contestée au secondaire, la clientèle cible par PISA. Alors imagine un ministre qui lit les résultats de PISA, l'implantation de la réforme. Alors ça aurait été, il me semble, il y aurait eu une levée de bouclier des gens qui étaient contre la réforme, etc. encore. Alors ça aurait été... comme peut-être jeter de l'huile sur le feu qui était bon, plus ou moins éteint dernièrement. Alors, je ne suis pas convaincu que ça aurait été la stratégie, parce que je suis certain que le bureau de ministre a dû y penser quand même à lier les résultats de PISA, l'implantation de la réforme réussie au Québec, au secondaire. Mais au secondaire, ça a été beaucoup plus pénible qu'au primaire encore dans les écoles. On n'est pas certain vraiment qu'il y a eu des changements dans les pratiques en salle de classe. Donc, sur papier, la réforme était là, mais dans les salles de classe, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Alors, faire le lien entre les deux, d'après moi, ça aurait été... réattiser des choses qui étaient plus ou moins, comme Claude l'a dit, éteintes un petit peu dernièrement.
OK. Amine?
En écoutant les...
Oui, oui.
C'était bien mon tour,
oui? Oui, oui, c'est à ton tour.
Oui. je voulais réagir sur l'absence de réaction au Québec. La relative léthargie et le peu de commentaires que ça a suscité, la conversation publique autrement. Et en écoutant les échanges depuis tantôt, je vais flasher sur un possible début d'explication. C'est que les gens au ministère que je côtoie depuis un an et demi sont obnubilés par l'effet enseignant. C'est comme si PISA, si on adopte la perspective de gestion axée basée sur la preuve et les données probantes, n'étaient pas des données qui venaient nourrir là où sont rendus les gens. Et là où je perçois que les gens sont rendus, c'est dans ce que Jake a évoqué plus tôt, c'est vraiment l'effet enseignant. Derrière ça, je décode l'intention suivante, c'est qu'on n'ose pas politiquement travailler sur des enjeux possiblement plus déterminants, comme par exemple les écoles à deux vitesses que tu as dénoncées dans quelques écrits, et notamment les écoles sélectives, qu'elles soient publiques ou privées, peu importe. Et ne voulant pas jouer sur ce terrain-là, on entretient le fantasme de défoncer la porte de la salle de classe et de mettre sur le dos des profs le fardeau de l'amélioration. Donc, les données PISA confortent qu'on est dans le peloton de tête avec une légère glissade aux yeux de certains. Et on sait qu'il y a certaines écoles qui ne peuvent pas mieux faire parce que déjà sélectionnent les meilleurs des élèves à l'entrée. Donc, le fardeau est sur les écoles qui ne choisissent pas leurs élèves, en milieu urbain. Et le fardeau, on ouvre encore la porte, c'est même pas l'effet école via agir autrement ou je ne sais pas, c'est l'effet enseignant. Alors, ce serait, moi, mon début d'explication pourquoi PISA, même si c'est sorti juste avant les fêtes, a eu si peu de résonance, finalement.
OK. OK, c'est intéressant.
J'aurais le goût aussi de poursuivre sur la situation du Québec, mais je voudrais élargir un peu à deux éléments dans les résultats généraux qui me questionnent, et peut-être qu'on a dans la salle des gens qui pourraient nous éclairer un peu sur ces éléments-là. Je pense en particulier à la situation de tous les pays d'Amérique centrale et du Sud, qui sont clairement
en bas.
Hein? Et puis quand on repart des principes initiaux de dire qui guide l'OCDE quand même, l'éducation comme la base du développement économique. Quand on regarde la situation actuelle du Brésil, on peut s'interroger en disant comment est-ce que ce qui devient ce géant peut s'expliquer par, dans des enquêtes comme ça, des résultats, ils sont quasi dans le peloton de queue. Donc, là, j'aurais un questionnement sur, alors est-ce que ça tient à des éléments d'ordre culturel ou autre, ce classement des pays, et j'aurais été très intéressé de voir comment analyser la réception dans ces pays-là de résultats comme cela, quand on voit qu'ils sont tous nettement en dessous. Ça, c'est le premier élément d'élargissement. L'autre, je voudrais faire un lien avec la présentation de ce matin, où finalement, à un moment donné, on a dit aussi, bon, on s'aperçoit que, qu'on le veuille ou non, que les enseignants aient un niveau de qualification élevé ou pas, il y a un certain nombre de données qui montrent que, dans une série de situations, les résultats de leurs élèves restent quasi les mêmes, ou relativement stables. Je crois pas... tu dois mal interpréter ce que tu as dit. Voilà. Et donc je me dis, tiens, c'est intéressant aussi de voir comment il est possible de faire une lecture des résultats PISA en fonction des modèles de formation initiale ou continue des enseignants, en particulier dans une réalité comme celle canadienne, où on sait que les modèles varient beaucoup aussi d'un coin à l'autre du Canada. Donc est-ce qu'il y a des études qui ont été faites dans ce sens-là ou pas?
Je n'en connais pas. Mais il y a peut-être des gens dans la salle qui pourraient répondre pour ce qui est d'Amérique latine? Gustavo?
Bon. J'ai suivi un peu les débats au Brésil, surtout des réponses de la sortie des résultats de PISA. Ils ont mis beaucoup d'accent sur la troisième place par rapport à ceux qui ont amélioré les résultats. Donc c'était Luxembourg, Chili, donc Brésil. Et c'est ça. Ce que j'ai vu aussi, en plus de PISA, c'est le type de test aussi, la culture des tests d'évaluation. Et les systèmes nationaux d'évaluation ont changé. Donc, UDEB, c'est un indice d'évaluation. Il applique la même méthodologie de PISA. Donc, les élèves deviennent de plus en plus à l'aise pour faire ce type d'épreuves. Mais l'accent est acquis. C'est très, très mauvais les résultats, mais
c'est une lecture en positif
entre les qui ont amélioré le plus.
Quand on est en bas, un peu comme
c'est la tendance. C'est bon, c'est la tendance.
C'est ça.
OK. Oui, j'ai madame en arrière de Guy.
Moi, je voudrais savoir, monsieur Brochu a dit, le test PISA ne porte pas sur les programmes. Et en même temps, il a dit que l'OCDE, lorsque les données sont compilées et puis qu'on a des résultats, ben, l'OCDE laisse le soin à chacun des pays de pouvoir interpréter ces résultats. Mais en même temps, je me demande si, lorsque les résultats sont sortis, on a les données, et que dans un pays, ils constatent que, bon, ben, soit les résultats sont faibles, mais comment peuvent-ils apporter des changements, étant donné que le test lui-même ne porte pas sur les programmes. Comment vont-ils apporter des changements?
C'est probablement que l'explication, selon ces pays-là, résiderait ailleurs. Je prends le cas de l'Allemagne, par exemple, où il y a eu un choc incroyable suite aux résultats initiaux du PISA en 2000, où l'attention médiatique et politique a été fortement vers la ségrégation du système d'éducation, comme une explication fortement plausible aux faibles résultats allemands. Et un re-questionnement de cette politique-là, qui n'avait rien à voir avec les programmes d'études comme tels, mais par rapport à une politique éducative qui avait été choisie par ce pays-là, qui a été remise en question, qui est toujours, je crois, remise en question en Allemagne. Alors, ce serait ce genre d'exemple-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vous viennent.
Il y a eu des cas ou des pays où, sans rentrer dans le contenu des programmes, on a décidé, par exemple, enfin, on a estimé que les données de PISA justifiaient de centraliser le curriculum et de ne plus laisser les unités locales, les districts scolaires ou les Länder ou peu importe, avec une grande marge d'autonomie par rapport à ça. On a utilisé PISA pour justifier une forme de centralisation curriculaire, puis un programme national d'évaluation standardisée. Ça ne dit pas quoi enseigner, Mais ça a dit, il faut, faut serrer ça, il faut que ça soit clair pour tout le monde. C'est un exemple de suivi.
Simplement ajouter le suivi de PISA. En 2000, quand on a eu les premiers résultats pour ce qui concernait la lecture, la situation était jugée catastrophique à ce moment-là en Belgique, les résultats étaient très très faibles. Et à ce moment-là, le ministère a mis en place des groupes de travail pour revoir la place qui était accordée aux compétences en lecture et dans les programmes qui étaient à ce moment-là occupés d'être révisés et dans l'ensemble des curriculums. Il y a eu un effet de cet ordre-là pour ce qui était des résultats de 2000 pour la lecture francophone. Parce que c'était en particulier là que les résultats étaient catastrophiques.
Jake, tu veux dire quelque chose là-dessus?
Donc, effectivement, le cas de l'Allemagne, justement, de mise en question de son fonctionnement, de voir est-ce qu'il y avait des choses dont son organisation a changé. Puis c'est vrai qu'on voit que l'Allemagne a progressé. Finalement, il y a eu des changements concrets dans le système. Le cas aussi de la Finlande est intéressant parce qu'il y a eu des rapports comme produits au Canada de savoir pourquoi la Finlande performait mieux que d'autres pays. Et souvent que les Finlandais se comparaient à la Suède pour copier leur système éducatif et finalement ils ne pouvaient plus le faire. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que le ministère d'éducation finlandais a décidé, malgré ses bons résultats, de faire une réforme de forme, de filant, de changer ce qui semblait être bon dans sa structure et de revenir plutôt à un système plus centralisé, plus d'un curriculum avec les moins diversifiés. Donc malgré ces résultats-là, positif dans le pays, il y a eu quand même une réforme et donc il y a une certaine s'attente aussi que finalement en 2009 elle avait trouvé que Finlande elle était moins bonne aussi que Finlande qui n'est pas le cas non plus. Donc c'est vrai que même si PISA peut amener des perceptions positives d'un système, parfois des systèmes aussi se disent on va regarder autre chose, peut-être il y a d'autres éléments aussi qui montraient que le système était moins équitable que par rapport à PISA. Donc il y avait aussi une certaine de ne pas prendre que PISA comme un seul indicateur pour son système. Aussi, les pays, même les pays plus formants aussi, sont dans une réflexion de changement aussi.
Oui. J'ai une question et une remarque. En fait, c'est une question par curiosité et innocente. Je me suis renseignée, mais j'ai pas réussi à trouver la réponse. Et je me demande comment on sélectionne les participants pour cette enquête. Est-ce que ce sont de toutes les écoles du pays ou bien est-ce qu'on sélectionne quelques écoles dans le pays et on fait des tutos? Et ensuite, pour la remarque, j'aimerais bien revenir à ce que M. Lessard a dit sur l'autonomie des élèves un peu. Parce qu'en fait, j'ai regardé attentivement sur l'autonomie des élèves du rapport PISA parce que quand je viens de Corée, et la Corée, quand même, j'ai vu que mon pays est situé assez haut niveau pour toutes les compétences, tous les domaines. Mais le problème, est-ce qu'on peut dire que vraiment les élèves coréens, ils sont autonomes? Malheureusement, la réponse était non, parce que par rapport aux autres pays qui étaient un peu plus bas ou plus haut, comme par exemple la Finlande, qui était le meilleur pays pour presque tous les domaines, et la Corée était à peu près au 36e ou 37e pour l'autonomie des élèves. C'est-à-dire qu'en Corée, quand on enseigne les élèves, le rôle des enseignants se trouve à peu près, en général, comme transmetteur de savoir ou bien accoucheur de savoir. Et donc, les élèves, malheureusement, ils sont considérés comme une machine à mémoriser et ils s'entraînent pour réussir tous les examens. Dans ce cas, je me demande comment ça se passe au Canada pour améliorer l'autonomie des élèves. Quand on regarde l'avenir dans 15 ans ou dans 20 ans, est-ce que par rapport aux résultats qu'on va avoir aujourd'hui avec le rapport PISA, ça sera les élèves qui ont participé à cette enquête, est-ce qu'ils auront la même valeur en tant qu'adulte, en tant que participant à la société dans l'avenir?
Okay.
Voilà.
Vous voulez répondre?
Peut-être à la première partie, ouais. Par rapport à l'échantillonnage. Le devis d'échantillonnage est aléatoire
selon deux axes, les écoles et les élèves. Donc, pour le Canada et pour l'ensemble des pays, l'ensemble des écoles publiques, donc qui sont financées par l'État, il y a une nuance à faire, où il y a au moins un élève de 15 ans et dans la population possible d'école. L'échantillon aléatoire est tiré par le consortium international. Les écoles qui sont choisies, on leur demande d'envoyer la liste de tous les élèves qui ont 15 ans et 3 ans, 15 ans et 3 mois et 16 ans et 2 mois. Et à partir de cette liste-là, il y a un échantillon aléatoire qui est tiré de Statistique Canada. Et ce sont ces élèves-là qui participent.
Il y a des pays où, semble-t-il, d'après ce que j'ai pu lire, bon, le Canada, ça va bien aller chercher 20 quelques mille élèves dans les 10 provinces, mais il y a des petits pays, semble-t-il, qui ont la difficulté à atteindre les seuils, ou le seuil de 5000, je crois qu'il y a comme une espèce de minimum qui est demandé, puis que ce n'est pas toujours facile d'obtenir la collaboration des écoles.
L'Angleterre est un exemple où en 2003, je crois, leurs résultats ont dû être invalidés pour une partie du PISA parce qu'il y avait eu un problème d'échantillonnage.
Okay.
Donc, il y a certaines normes, un certain pourcentage d'écoles qui peuvent être exemptées. Si on va au-delà de ce pourcentage-là, il est possible que les résultats du pays soient invalidés. Juste avant de revenir ici, par rapport à la Corée, une petite constatation par rapport à 2009 que je trouve intéressante. La Corée est le seul pays parmi les plus performants qui a réussi à s'améliorer. Comme mentionne M. Lassard, je suis tout à fait d'accord avec ça. Quand on est en haut, dans le meilleur des cas, on va rester au même niveau.
Ben oui.
Et selon toute probabilité, on va descendre.
Oui.
Et les pays qui réussissent à augmenter au PISA, ce sont les pays qui réussissent le moins bien. Dans le cas ici, il y avait seulement la Corée qui a réussi à augmenter ses résultats. Et selon ce qu'on voit, c'est probablement parce qu'ils ont réussi à augmenter leur pourcentage d'élèves les plus performants. Alors, même s'ils avaient un haut pourcentage d'élèves performants, ils ont réussi à augmenter ce pourcentage-là. Il va y avoir un petit tourisme PISA qui se développe en Corée, comme il y en a eu un tourisme finlandais, et il y en a un au Canada, c'est certain. Mais il va y avoir quelque chose là, je suis certain, pour essayer de creuser ça. Comment ils ont pu faire pour, en dépit de leurs bons résultats, réussir à les améliorer?
Sur la question de l'autonomie, M. Brochu, là, que soulève mademoiselle, dans le questionnaire aux élèves, je ne parle pas des tests, là, mais dans le questionnaire aux élèves, il y a tout plein de questions sur les stratégies d'études, et tout ça, sur l'engagement par rapport aux études, etc. Est-ce que ça peut être considéré comme... Enfin, est-ce qu'il y a là-dedans des mesures de l'autonomie des élèves pour essayer de faire... essayer de répondre à mademoiselle?
Par rapport à, par exemple, est-ce qu'ils vont étudier par eux-mêmes, est-ce qu'ils ont l'air des parents?
Oui,
tout à fait. Quand vous faites vos devoirs, est-ce que vos parents vous aident? Quand vous avez commencé à apprendre la lecture, par exemple, est-ce que vos parents vous ont fait la lecture, ce genre de choses-là? Oui.
Mais il n'y a pas vous n'avez jamais vu un indice d'autonomie par pays, là?
Non. Il y a des indices composites pour certains. L'engagement, par exemple, il y a un indice composite d'engagement envers la lecture, mais pas envers l'autre.
Puis j'imagine qu'il y a une relation assez forte entre l'engagement et les résultats au test.
Je crois qu'il y avait une intervention.
J'ai François, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai François puis Maurice. Ben, il l'a indiqué tout à l'heure.
Comment va, garçon?
C'est juste sa deuxième.
Ah, merci, Tom. Plus une remarque que une question. On peut se poser une question sur la comparabilité des résultats de tout ça selon les États, mais pas à l'intérieur de même bloc. C'est-à-dire, si on prend le groupe des pays industrialisés à système scolaire à peu près équivalent, ne serait-ce qu'en termes d'accessibilité et d'importance donnée au maintien de l'infrastructure scolaire ou dans le budget d'État, l'instrument lui-même est intéressant parce que dans la logique de compétences en guillemets, au niveau de la structure du système, il garde la variabilité. Je soulignais dans les questions qui étaient proposées antérieurement. Qu'est-ce qu'on fait avec les variables de contexte? Le problème de l'uniformisation pourrait se poser sur les items du questionnement lui-même. C'est que quand on est très ministre, on n'a pas de variabilité. Quand on n'a pas de variabilité, on n'a pas de chiffre. Ou alors, on fait des platitudes comme certaines tentatives ont été faites dans le passé pour trouver les traits d'intelligence communs à la planète. C'est inintéressant. Alors, dans ce sens-là, il y a peut-être une nuance à mettre sur l'interprétation en fonction de ce que vous dites. Par ailleurs, il n'y a rien qui empêche les secteurs législateurs de faire ce que les États ne font pas, c'est-à-dire, par exemple, de tenir compte par-delà de la relation entre l'indicateur sur l'autonomie, et la capacité de prise en charge de lecture. Ça peut politiquement être utilisé pour soutenir des campagnes comme celle du ministère actuellement au Québec, mais une grande emphase sur la littératie. Ça peut aussi servir à voir où il y a des effets de l'impact. Par exemple, dans le rapport aux sciences, via les étudiants en lecture. Donc, juste pour dire que l'instrument est bon, les comparabilités inter-pays posent des problèmes, je peux en poser, pas selon le point de vue, mais pour ce qui est du comparable entre pays qui ont été développés à système scolaire équivalent, l'instrument, il y a des gens qui s'y sont essayés, en tout cas après la première vague de PISA, se sont cassés des dents, je veux dire, ça n'est pas très bon. C'est vraiment, au point de vue, très qu'un excellent instrument par rapport au nombre de gens et de contextes visés.
Avec ce jugement sur la qualité, cette étampe de qualité. Maurice.
Sur l'échantillonnage, c'est une double opération là. Par exemple, au Canada, il y a autour de 16 000 établissements. Vous faites un échantillon aléatoire, et dans cet échantillon-là, les élèves, au moins un élève de 15 ans, vous faites encore un échantillon des élèves qui font partie du groupe d'écoles sélectionnées là. Donc, les écoles qui sont sélectionnées sont sélectionnées avant les élèves.
C'est ça.
Elles sont donc informées qu'une partie de leurs élèves vont être soumis à PISA.
Tout à fait.
Bon, vous savez qu'il y a beaucoup de légendes urbaines qui circulent sur PISA. j'ai eu le plaisir de travailler en Suisse quelques années. J'étais près des pouvoirs politiques parce que mes patrons, c'était des ministres de l'Éducation. Et eux disaient, les pays anglo-saxons et plusieurs pays préparent leurs élèves. Ils font de la drill sur PISA parce qu'ils savent d'avance. Nous, en Suisse, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. On va donner l'ordre aux établissements qui sont ciblés par PISA. On sait qu'il va y avoir un sous-groupe d'élèves dans notre établissement. Et nous aussi, on va les préparer.
On va les entraîner.
Parce que vous connaissez ces effets-là. Vous. Non, 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 non.
Mais on fait pas ça au Canada.
Certainement moins que dans d'autres pays. je ne sais pas jusqu'à quel point c'est une légende urbaine, mais je crois que ça a été observé par plusieurs collègues. Au Japon, lorsque l'école est sélectionnée pour faire le PISA, le matin de l'évaluation PISA, tous les élèves de l'école sont amenés au gymnase. Et après l'hymne national, le directeur de l'école et souvent une personne supérieure, comme un député, vient vanter l'importance de bien performer au PISA et que l'avenir du pays, l'avenir économique, dépend du rendement des élèves à cette évaluation-là.
Mais en même temps, M. Brochu, je pense qu'il y a probablement quelque chose à garder du côté des légendes urbaines, mais moi, je suis un peu étonné de la sous-performance américaine, parce que s'il y a un pays qui drille ses étudiants, qui depuis 10 ans, avec le No Child Left Behind, les met dans un régime intensif d'évaluation systématique, high stakes, jusqu'au bout, normalement, les élèves américains, ils devraient rentrer dans le PISA comme des poissons dans l'eau, là. Et performer, c'est quand même...
Je peux prédire une augmentation sensible des résultats américains au prochain PISA.
À cause de ça,
le discours aux États-Unis a beaucoup changé par rapport au PISA en 2009, où l'OCDE a fait des conférences de presse dans plusieurs pays lorsqu'il publie les résultats, et une de ces conférences-là a été faite à Washington, le 7 décembre, avec le secrétaire d'État en éducation, qui était là pour mentionner l'importance des résultats du PISA. Le président Obama a mentionné l'importance d'avoir de meilleurs résultats au PISA, une initiative pour améliorer l'enseignement mathématique et en sciences a été mise en place, je ne dirais pas seulement à cause du PISA,
mais que le résultat au plus ont certainement contribué à la mise en place de cette initiative-là avec beaucoup, beaucoup de sous. Je prédirais une amélioration du rendement aux États-Unis, au moins en mathématiques et en sciences.
Okay. J'ai vu, moi, dans les journaux que Duncan avait dit que c'était... Mais ça, on a tellement entendu ça souvent aux États-Unis depuis 40 ans. Il dit « It was a wake-up call ». Encore une fois, il faut... Ça, c'est pas vraiment nouveau. Mais tant mieux si les Américains s'améliorent. Enfin, à ce genre de truc-là. Il y a autre chose? Autre commentaire? Moi, j'en aurais un. Je ne sais pas si ça peut servir de conclusion, mais je trouve que les données canadiennes de PISA, depuis qu'elles existent, sont à peu près pas utilisées par les chercheurs ou par des services de recherche dans nos gouvernements. Moi, j'ai jamais vu d'analyse secondaire. Parce qu'on peut bien parler du Canada, là, mais c'est comme étant une entité en soi, mais c'est assez diversifié, merci. Même l'Ontario ou même le Québec, je veux dire, on pourrait briser ça en sous-région ou en secteur francophone-anglophone. Par exemple, au Québec, on peut faire des analyses extrêmement intéressantes, privées, publiques, régions urbaines, etc. On pourrait briser les résultats pour essayer d'analyser les, en termes d'équité et d'efficacité. Parce qu'à l'échelle du pays, ça finit par...
Non, de par la nature de nos systèmes éducatifs.
Et ça, j'avoue que ça, je ne comprends pas pourquoi, ni dans les ministères de l'éducation provinciaux, on peut comprendre qu'Ottawa ne le fasse pas, mais ni dans les ministères de l'éducation provinciaux, ni dans les universités, il y a de chercheurs qui prennent le temps de... C'est quand même une base de données... assez unique et qui permettrait de vérifier des hypothèses.
On compte sur nos jeunes collègues.
Ben oui.
Si je peux me permettre, par exemple, c'est une base de données qui n'est pas facile à aborder. M. Burdock peut certainement l'attester. Le concept de valeur plausible qui est utilisé dans PISA, notamment, a rebuté bon nombre de chercheurs, même parmi les plus férus statistiquement. Mais ça fait partie de la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Je vais répandre la bonne nouvelle, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une mine intarissable de données qui, en autant qu'on les prend toujours dans le contexte, peuvent beaucoup apporter au discours en éducation. Puis certainement, il y a beaucoup de chercheurs qui les utilisent, ces données-là, plus qu'on le pense. Mais il y en a encore beaucoup qui ne les utilisent pas ou pas assez. Okay. Alors ça fait partie du travail. Ouais. Il y en a. Souvent, ce sont les mêmes suspects, mais
On en discutera après, parce que le temps file, et puis je veux pas retenir M. Brochu plus longtemps qu'il ne faut, mais je tiens à le remercier. Je crois pas qu'on aurait pu faire ce qu'on a fait cet après-midi, même si j'adore Jake, sans la présence du porteur du dossier PISA au Canada. Merci infiniment de vous être déplacé à Toronto. Merci.